Les Grandes Gueules sur RMC avec Biofib. L'isolant en chanvre, idéal pour vos travaux de rénovation. Biofib, ça chanvre tout.
RMC, les Grandes Gueules.
Ça s'en va et ça revient.
Oui, ça s'en va et ça revient. C'est le principe du prix de l'essence, quoi. Les augmentations, ça s'en va, puis ça revient en fonction des ristournes, en fonction des chèques carburants. Là, l'augmentation du prix de l'essence, ça revient et ça revient plein pot.
Bah oui, parce que depuis mercredi dernier, il n'y a plus que 10 centimes d'euros par litre de carburant de remise gouvernementale dans les stations au lieu des 30. Ces 10 centimes, on va les avoir jusqu'à la fin de l'année. On ne sait pas ensuite ce qui va se passer. Alors, on nous dit qu'il y aura une aide ciblée pour les gros rouleurs. On ne sait pas précisément comment on va calculer tout ça. En tout cas, comme prévu, les prix du carburant ont naturellement augmenté. Alors, ils ont un peu moins augmenté que prévu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas augmenté. On craignait les 20 centimes d'augmentation, puisque la ristourne, c'était 20 centimes qu'on a supprimé. Et là, ça augmente, selon le ministère de la Transition énergétique et les derniers chiffres qui ont été publiés. On note une augmentation de 10 centimes en moyenne pour le litre de diesel et une augmentation de 13 centimes en moyenne pour le sans-plomb. Donc on n'est pas encore dans les 20 centimes d'augmentation, mais bon, les prix des carburants vont augmenter. Alors, est-ce qu'on va tenir? Est-ce qu'on va finalement accepter que l'inflation est là et qu'il faut vivre avec? Ou est-ce qu'il faut vite que le gouvernement déclenche une nouvelle ristourne?
32-16, rmc.fr, comment faites-vous? Des fois, c'est l'article 42, démerde-toi comme tu peux, c'est-à-dire qu'on fait des demi-pleins, des quarts de plein. Monsieur Bédiguézard.
En fait, moi, ce qui me chagrine un peu, c'est qu'on revient toujours à la même solution, c'est la baisse des taxes sur les carburants. Voilà. Pour moi, il n'y a aucune autre solution. C'est qu'on est en période d'inflation sévère, qu'on est en période de crise énergétique sévère, et que je ne dis pas comme quoi il faut baisser les taxes gouvernementales ad vitam aeternam. Je ne dis pas ça. Mais je dis que, au lieu de, justement, à chaque fois, faire des nouvelles mesures ou mesurettes, tout dépend,
qui coûte 7 milliards d'euros, voilà, les ristournes sur le carburant.
Excessivement cher. Et ben, qu'est-ce qu'on fait? On travaille avec des gens de bonne conscience et de bonne famille, et on se dit, ben, écoutez, pendant que l'inflation est galopante à ce niveau-là, eh ben, on va bloquer une partie des taxes. Juste une partie des taxes. N'oublions pas, je l'ai dit et je l'ai répété plusieurs fois sur ce plateau, que 64% du prix du carburant,
c'est de la taxe.
C'est de la taxe. Et de la taxe pure et dure. Il y a aussi un truc qui me chagrine un peu, c'est que là, on me dit, les gens font les personnes, vous savez, les vierges effarouchées, en disant, ah oh non, mais regardez, ça a augmenté de 10 centimes, de 15 centimes. Mais pendant le mois de pénurie, Pendant le mois de pénurie de carburant.
Quand il y avait les blocages,
des
dépôts, des raffineries.
Le litre était beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. Hein.
Oui.
Le litre était beaucoup plus cher qu'aujourd'hui. Donc les Français.
Et on faisait la queue.
Les gens faisaient la queue, puisqu'ils n'avaient pas le choix, puisqu'ils étaient pris en otage. Et où ça, où ils restaient chez eux, ils ne travaillaient pas, ils ne bossaient pas, ils ne bouffaient pas.
Il y a encore des stations où tu ne trouves pas d'essence.
Où il n'y a pas de carburant. Et quand j'entends le communiqué du ministère de la Transition écologique. Putain, c'est transition écologique. C'est très beau à dire. Quand ils te disent qu'il y a entre 10 et 12 centimes d'augmentation, je leur dis, mesdames et messieurs, vous êtes des menteurs. Tout simplement, parce qu'il y a beaucoup plus actuellement. Il y a actuellement beaucoup plus que 10 à 12 centimes d'augmentation depuis la fin de cette mesure.
Oui,
vous êtes, des menteurs. Il faut savoir dire les choses.
Ils te disent pire que ça, parce qu'avec un grand cynisme, ils te disent, ouais, non, mais il y a des taxes, mais il faut que les gens s'habituent à laisser leur voiture pour l'écologie. Donc c'est très bien, après tout.
Ce qui est le sens de l'histoire, d'énergie fossile.
Ce qui est fou dans l'histoire, c'est une indemnité carburant travailleur devrait voir le jour d'ici quelques mois.
Mais pendant ce temps-là, vous vous démerdez et vous crevez.
D'abord, je mets au défi un seul politique de me dire où sera la France dans quelques mois, parce qu'ils n'en savent strictement rien. Ils savent absolument pas quel sera le prix des carburants dans quelques mois, quel sera le prix énergétique, etc., ni même dans une semaine d'ailleurs. Et là, les Français font face à une explosion des prix de l'énergie qui est historique, avec des tarifs d'électricité ou de gaz qui sont multipliés par 4 ou par 5 ou par 10.
Et ils te disent d'aller vers la voiture électrique.
À titre d'exemple, mon établissement, petit établissement, clinique, 52 lits, je paie 31 000 euros par an en électricité. J'ai reçu mes tarifs. Là où je payais en heure forte 14 euros, je vais payer 58. Là où je payais en heure creuse 7 euros, je vais payer 25. Ce qui fait que d'une facture de 31 000, je vais passer au-dessus de 150 000.
Ah bon?
Voilà.
De
31 000 à 150
000. Donc ça, tu le multiplies par toutes les entreprises.
Et t'as pas de bouclier, t'as
des gros établissements de soins aujourd'hui qui avaient dans les 400 000 euros de facture. Il passe à plus de 1,5 million.
Pardon, il n'y a pas une aide pour les entreprises en fonction
de... Il n'y a rien. Il y en a reçu pour l'instant une aide pour l'inflation. Je suis tout à fait transparent, hein, 20 000 euros. Et pour l'instant, il n'y a rien qui est sorti sur électricité, gaz, etc.
On attend. Ça sera plus cher.
Je n'en sais rien du tout. Je préviens et j'alerte. J'alerte le ministère.
Il va répercuter.
Il va y avoir un massacre dans les petits établissements. Dans les petits établissements. Et ça risque de largement obérer sur la capacité de ce pays à faire face aux soins à un moment de notre histoire où notre système sanitaire va
d'accord,
mal.
D'accord, mais Jérôme, question simple, est-ce que ça coûtera plus cher de se faire opérer chez toi ?
Non, mais moi, on ne s'est pas opéré chez moi, je suis un établissement de soins de suite. Mais ce qui est certain, c'est que les établissements MCO, c'est-à-dire médecine, chirurgie, obstétrique, qui ont des blocs opératoires, vont probablement reporter le coût d'électricité aux chirurgiens qui louent les blocs opératoires. Comment vont faire face les chirurgiens ? J'en sais rien. Aujourd'hui, on n'a rien. Alors, je veux dire, le doigt mouillé, ça va bien, quoi. Ça va un peu. Mais je ne vais pas tirer la couverture là-haut à la médecine, mais c'est toute la population française qui va rencontrer ces augmentations-là. Comment ils vont faire, les Français ? Là, on leur dit, bon, allez,
on va leur faire des aides, on va leur faire des chèques.
On vous aidera, mais dans quelques mois. Mais dans quelques mois, ils ont déjà eu la facture d'électricité, la facture du gaz, etc. Mais
Jérôme, tu auras un chèque, t'inquiète.
J'en sais rien. Mais je sais
le
pas.
Quoi qu'il en coûte,
j'ai l'impression, moi, d'avoir un gouvernement. D'avoir un gouvernement qui gouverne le droit mouillé. Et ça m'emmerde.
Mais pourquoi ce gouvernement d'assiste à l'incomplet? Pourquoi ce gouvernement d'assiste? Pourquoi on a besoin d'aide pour travailler, pour vivre? Pourquoi, justement, ils ne font pas le... En fait, la valorisation du travail n'est plus dans l'esprit des gens. Puisqu'ils se disent quoi? Ils se disent, je bosse, mais j'ai besoin d'attendre un chèque de mon gouvernement pour bouffer ou pour remplir le plein. Donc ça sert à pratiquement à rien que je bosse. Alors que si justement on arrivait à faire un système où il y aurait moins de taxes, et je précise bien, comme ça on va pas me dire que je suis Alice au Pays des Merveilles, pendant la période de crise énergétique, pendant cette période d'inflation à deux chiffres, pendant cette période, le temps que ça, un peu, ça se calme. Je précise bien, je sais que l'argent ne se crée pas. Enfin, il y a certains membres de nos politiques qui pensent comme quoi l'argent, c'est une planche à billets, mais il y en a qui sont un peu plus responsables et consensuels. Mais pendant cette période, justement, où on voit comme quoi tout part en vrille, on bloque certaines taxes pour que les gens puissent vivre de leur travail, tout simplement.
Moi, je pense que l'explosion des prix de l'essence, c'est vraiment en roue libre, dans tous les sens du terme, et que les gilets jaunes vont finir par se réveiller parce qu'ils vont être excédés. Et le FMI tire la sonnette d'alarme, on va encore faire des chèques en blanc en disant des chèques pour tout le monde, des chèques.
Le FMI reproche à la France de trop dépenser.
Ouais,
le quoi qu'il en coûte a été reproché par le FMI.
Il y a des limites à tout, enfin, je veux dire. Et dans les villes, en campagne, par exemple, comment peut-on aller à un entretien d'embauche sans voiture. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour le travail aussi? C'est ça. À Paris, dans les grandes villes, d'accord, mais ne moins prendre la voiture, moi, je trouve que c'est complètement incohérent et on a un gouvernement, encore une fois, complètement à côté de la plaque.
Est-ce que c'est pas incohérent de financer ainsi aussi le carburant? On peut pas dire à la fois.
Mais les chèques en lutter... blanc, c'est incohérent.
Mais attends, je termine. On peut pas dire à la fois on lutte contre les énergies fossiles, il faut sortir du tout pétrole et dépenser 7 milliards pour que les gens continuent à acheter du pétrole. Enfin, moi, je suis désolé, mais on envoie aux Français,
des messages.
Mais l'électricité va revenir au même prix du carburant dans même pas 6 mois. Mais Olivier.
Moi,
je suis en train de te dire comme quoi l'électricité va être au même niveau quand tu fais par rapport aux kilomètres parcourus avec une voiture entre un plein d'essence et entre une recharge électrique ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 recharges électriques pour ton même trajet. Donc arrêtons de dire des conneries aux gens. On leur dit passez à tout l'électrique, mais baissez le chauffage, éteignez vos ampoules parce que sinon ça va être un blackout. Mais prenez pas les gens pour des cons. On te dit d'éteindre le wifi dans ton salon, dans la nuit pour économiser ton électricité, mais après on te dit va t'acheter une bagnole et branche-la toute la nuit. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi?
Tika, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, Ticia, pardon.
On marche sur la tête.
Dans les Bouches du Rhône.
Énervé, là.
La voiture, on voit le prix de l'essence qui remonte. Est-ce que vous prenez moins votre voiture? Est-ce que vous faites des demi-pleins, des quarts de plein? Dites-nous comment vous faites.
Alors, oui, donc bonjour à tous.
Bonjour.
Effectivement, je prends moins la voiture. Alors nous, en fait, nous sommes deux à conduire et nous avons deux véhicules. Mais nous avons un véhicule à essence, enfin diesel en l'occurrence, et un véhicule électrique, tout électrique, que nous avons acheté il y a près 4-5 ans. Et effectivement, nous privilégions bien évidemment les trajets avec le véhicule électrique. Et pour le véhicule à essence, eh bien, très clairement, moi, je ne vais plus ou très peu voir mes amis. Je fais très peu de trajets.
Donc, ça conduit à une forme d'isolement, finalement.
Exactement. Mais de toute façon, avant, c'était aussi pour aller, par exemple, faire les magasins ou se promener, faire des cours, des choses comme ça. De toute façon, aujourd'hui, on n'a plus le pouvoir d'achat qui nous permet de dépenser. Donc, l'un dans l'autre, j'ai envie de vous dire.
Et vous prenez l'électrique. Le covoiturage, ça peut être une solution aussi ou pas, Ticia?
Alors oui, moi, par exemple, qui suis effectivement agent immobilier, je prends, par exemple, ma voiture... lorsque nous avons des visites, des choses comme ça, on covoiture entre collègues ou même avec les clients, hein, clairement. Maintenant, malheureusement, pour le trajet, par exemple, à l'école, j'ai proposé à plusieurs parents qui habitent mon village de covoiturer et bizarrement, les gens ne veulent pas.
Donc, et pourquoi ils ne veulent pas, d'après vous?
Mais écoutez, justement, moi, j'ai...
Est-ce que vous n'êtes pas sympa, peut-être, aussi?
Parce que la voiture, est-ce qu'elle sent bon?
Parce que c'est pas notre culture, moi, je pense.
Non. C'est vrai, c'est une bonne culture.
Attends, allez-y, Ticia.
Oui, c'est ça. Bon, après, nous, on est dans, voilà, une quarantaine d'années, 40, 50 ans, la moyenne d'âge des parents. Dans l'école, en tout cas, de ma fille.
C'est peut-être une question de génération.
Ben, je sais pas.
Peut-être que les jeunes le font plus facilement.
Avec Blablacar, on est habitué.
Voilà. Les colocs notamment. Les jeunes qui grandissent, cette génération qui vit en colocation, qui utilise Blablacar, à mon avis, sera dans la culture du covoiturage. La génération Marty, par exemple, non, boomer,
elle le perdra pareil.
Jérôme, il va être seul dans sa bagnole. Non, mais il veut pas qu'on l'emmerde.
Elle le perdra pareil. Elle est dans le covoiturage parce qu'elle a pas d'argent. Non, mais parce qu'elle a pas d'argent. Quand t'es étudiant, t'as pas la thune et donc
t'as jamais la thune quand t'es étudiant.
Après, ça a toujours été comme ça. C'est ce que je dis. Mais après, quand tu avances en âge, que t'as un salaire, tu le fais moins.
On était moins coloc. Maintenant, pour vivre dans les grandes villes, t'es obligé d'être en coloc.
Ticia, pour venir simplement sur le début de notre discussion, je vois que vous essayez de vous débrouiller, mais aujourd'hui, si l'essence continue de monter, ça va vraiment avoir quel impact du coup sur votre vie quotidienne là à long terme alors?
Ben déjà là, tout de suite, à court terme, clairement, nous sommes passés au niveau des finances à un système d'enveloppe budgétaire, sachant que nous sommes quand même dans la moyenne haute au niveau salaire.
D'accord.
On n'est pas du tout à la base à plaindre. Et malgré tout,
vous êtes limite.
Mais clairement, on a dû réduire des choses. Là, on est en train de réduire des abonnements qui sont pas utiles, hein, genre des abonnements à des chaînes de télévision, des choses comme ça, voilà. Enfin, je veux dire, ça devient dramatique. Moi, j'ai été dans le système cas D. Vraiment très dans la population. Enfin, j'allais au Resto du Cœur, etc. avant, donc j'ai vécu en fait, on va dire, dans les deux mondes. Et honnêtement, j'ai l'impression de retourner quelques années en arrière où j'allais au Resto du Cœur et j'habillais mes enfants populaires. Ouais. Ah oui, non, mais vraiment. Enfin, j'exagère un tout petit peu, mais je me demande comment nous, qui avons quand même des revenus annuels qui sont conséquents, comment font les gens qui sont au SMIC, en fait. Et du coup, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de mesures qui sont prises, ne serait-ce que de l'entraide. Effectivement, là, on parlait du covoiturage. Moi, les parents me disent oui, mais je préfère dépendre que de moi-même et puis laisser les enfants dans la voiture de quelqu'un d'autre. Il y a une espèce de crainte. Et alors, c'est peut-être générationnel, effectivement. Moi, je connais
plein de gens
qui utilisent Blablacar, etc. Mais bon.
Tu vois, Mehdi,
merci Ticia de ce témoignage. Oui. Merci
dans
d'avoir été
berline.
Avec
nous.
Attends, tu vois Mehdi covoiturer? Mehdi, t'as déjà covoituré?
Non, mais il fume trop, lui, dans sa voiture.
Déjà,
ah non,
merci
ça, c'est horrible.
Voilà,
ah, bah peut-être que madame.
Ticia, je comprends tout à fait ce qu'elle dit et c'est très gentil, mais déjà, Ticia a une chance. que beaucoup de Français n'ont pas, c'est que tous les matins, elle fait plouf plouf entre sa voiture électrique et sa voiture à carburant. Les gens n'ont pas cette chance. Donc, il faut savoir surdire les choses. C'est pas le meilleur exemple. Elle est tout à fait elle est lucide, elle est tout à fait gentille. Mais malheureusement, 95% des Français n'ont pas le choix entre choisir quelle voiture ils vont prendre ce matin, quoi. Désolé. Ou quel carburant ils vont utiliser ce matin. Ça, c'est la première des choses. L'électricité aussi. On parle que pour les voitures. Mais l'électricité qui augmente avec le carburant qui augmente. Pour Ticia, pour le covoiturage, pour ceux qui vont juste au boulot, et à la rigueur, il y a de la débrouille et tout ça, d'accord. Comment il fait le restaurateur pour allumer ses fours? Comment il fait le boulanger pour allumer ses fours pour cuire le pain? Comment ils font tous ces corps de métier où ils ont besoin de ces énergies pour travailler? Comment ils font? On va leur dire quoi? Non mais attendez, on va réfléchir dans quelques mois, vous offrirez à vous faire une mesure. Ouais. Non mais à un moment, est-ce qu'on revient à la réalité ou on revient pas à la réalité? Parce que là, on est en train de dire, comment non, faire les, mais moi, je veux accompagner,
non, mais attends, excusez-moi,
IRM et exactement, comment tout ça? Excuse-moi, mais à un moment, tu te poses des questions, mais qui sont juste simples.
Oui, mais Mehdi,
covoiturer, d'accord, c'est beau, ok, l'écologie, Hidalgo, ouais, on va faire les majorettes.
Le problème, c'est que ta solution, c'est qu'il y a des
métiers, mais il y a des métiers qui ne dépendent que de l'énergie.
D'accord, mais Mehdi,
c'est pas comment déposer son fils à la crèche ou comment ça, à la rigueur, tu peux trouver
une solution.
Mais il y a des choses, il y a des gens qui vont fermer rideau.
Mehdi, on est d'accord. Mais faut baisser la TVA, etc.
Mais je te dis,
d'une façon provisoire, tu sais très bien que quand tu baisses un impôt, c'est très compliqué de le remettre parce que tu deviens impopulaire. Va expliquer cet été, finalement.
Il va plus être réélu, il est dans son deuxième mandat.
Oh, tu le fais passer en plein mois d'août.
Mais
peut-être dans le gouvernement,
Emmanuel Macron est dans son dernier mandat.
Il peut être impopulaire.
Il a ce luxe-là de pouvoir réformer sans penser
donc
à l'élection.
Il doit être courageux.
On peut parler?
Je suis assez d'accord.
Excusez-moi. Il doit porter ses couilles. Et ben voilà. Il faut se le dire. Je suis désolé.
Dans un instant, c'est dit.
En forme le midi.
Ramzy qui nous appelle du Rhône. Il est courtier en financement. Alors lui, il vient de passer au super éthanol. Voilà, il a changé
de mode de carburant. C'est une bonne méthode.
Oui. Et du coup. Économie derrière.
C'est une bonne méthode.
Face à la flambée des prix de l'essence, comment vous vous débrouillez? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites des demi-pleins, des tiers de pleins, du covoiturage? Est-ce que vous arrivez à laisser la voiture au garage? Bien, on en parle en toute franchise dans les GG, dans les grandes gueules, avec vous au 32-16. Les GG, les grandes gueules sur RMC Story tous les jours à 11h. Vous savez que c'est vous qui choisissez l'un de nos sujets de discussion. À vous de choisir aujourd'hui. Voilà ce que l'on vous propose pour ou contre l'uniforme à l'école, où on l'évoquait là dans la discussion, le FMI qui appelle la France à mettre un terme au quoi qu'il en coûte. Vous votez sur internet rmc.fr, vous choisissez l'un des deux sujets, l'uniforme à l'école, c'est des députés Renaissance qui vont faire une proposition de loi, ou le FMI qui appelle la France à mettre un terme, quoi qu'il en coûte.
Excusez-moi pour le gros mot, parce que je viens de me prendre un scud de ma mère par message qui m'a dit je ne t'ai pas éduqué comme ça, donc désolé.
Oui, surtout qu'en plus, tu parlais du président de la République.
Madame,
vous avez raison,
maman,
parce qu'il
excuse-moi, je n'ai pas le droit de dire des gros mots.
Madame Guézard a tout à fait raison.
Désolé maman.
Ramzy, bonjour.
Oui, bonjour les grandes gueules.
Bonjour
Ramzy du Rhône. Alors, l'essence, c'est reparti plein pot. Comment vous faites, mon cher Ramzy, alors? Quelle est votre solution?
Ma solution, il y a quelques mois, j'ai décidé de passer au super éthanol. Ça s'est fait sur la période de mars-avril, où j'avais commencé à entendre qu'il y avait une hausse de l'essence qui allait arriver. Et je m'étais un peu renseigné sur le superéthanol, parce que j'étais quand même inquiet, ça me surprenait que ça soit aussi simple que ça, entre guillemets, qu'il y avait une grosse différence de prix. Et du coup, j'ai fait des recherches sur Internet, je me suis renseigné, et puis je me suis lancé. Donc du coup, j'ai fait installer un boîtier au mois de mai. Ça m'a coûté environ 1000 euros à peu près l'installation.
Ouais.
Et aujourd'hui, quand je vais à la pompe, forcément, j'ai beaucoup moins la boule au ventre de mettre un plein, puisqu'en moyenne, le super éthanol, il varie entre 0,65 le litre et ça monte jusqu'à 0,90. Donc,
sur quel type de voiture, Ramzy?
Alors moi, j'ai une Volkswagen, une Golf 6 essence. Donc on se retrouve avec un plein entre 35 et 40 euros maximum.
C'est possible sur tout type de voiture.
Attention, Ramzy, l'avantage.
Que sur les véhicules essence. Les véhicules.
Et l'avantage aussi que vous avez, Ramzy, c'est que votre véhicule n'est plus considéré comme véhicule sous garantie constructeur. Ça veut dire que maintenant, malheureusement, il y a des constructeurs, quand vous ne la commandez pas avec ce type de boîtier à l'origine, quand vous le placez dans des centres, peu importe les centres dans lesquels vous placez, vous perdez la garantie constructeur. Ouais, quand ils sont pas dans le circuit, quand ils sont pas installés dans le circuit. Et savoir une chose,
c'est que dans un centre
qui fait des trucs comme ça, ça coûte à peu près entre 1500 et 1800 euros. Tout dépend du centre qui vous le place. Et dans un centre de constructeur, vous êtes plus dans les.
Mais du coup, alors, votre petit changement à 1000 euros, il a été amorti super rapidement.
Largement. Pour les véhicules d'anciennes années, largement.
Il a tout à fait raison.
Mais non, c'est vachement efficace.
Ça, c'est une force de proposition, ça.
Non, vraiment.
Mais t'as des marques qui font toute leur gamme.
Attendez, allez-y, Ramzy, pardon.
Entre 6 et 8 mois, c'est amorti. Par contre, ce qui est dommage, il y a certaines régions qui ont droit à des petites aides de la région. Dans le Rhône, ce n'est pas le cas. Mais effectivement, parce qu'après, c'est quand même un budget, hein, 1000 euros, 1300 euros.
Il y a aussi des contraintes aussi techniques. Vous ne pouvez pas vous garer dans des sous-sols. Il y a des sous-sols, des parkings de sous-sols qui sont interdits aux boîtiers éthanol. C'est très.
Là, j'ai jamais vu, moi qui me garde de temps en temps sur le centre de Lyon en parking, il n'y a aucune indication quand on.
Je peux vous dire que c'est. Que
l'éthanol, vous en trouvez partout, toutes les bombes.
Il y a certaines bonbonnes qui sont interdites dans des sous-sols, dans des parkings. Qui sont interdits dans des parkings en sous-sol.
Faites gaffe, Ramzy.
Non, mais après, je vous le dis, par rapport à un véhicule, mais regarde toute la. Je suis désolé de le dire, hein, mais tout le vice du truc, c'est que Ramzy, qui a une voiture. 2006, c'est ça, vous avez dit?
Non, une Golf 6.
Ouais, mais c'est 2006.
2012.
Golf 6, ouais, ok. Qui a 10 ans. La bagnole, elle a 10 ans. D'accord? Tu fais ça, tu gagnes du pognon. Mais dans 3 ou 4 ans, il va plus pouvoir rouler avec sa voiture. Parce que contrôle technique sur contrôle technique, ils vont lui sortir tout et n'importe quoi. Parce qu'ils veulent justement mettre de plus en plus de vieilles bagnoles à la casse. Et des voitures que tu peux mettre comme ça, où tu peux mettre des boîtiers, de 2004, 2005 jusqu'à 2012, 2013, 2014. Ces voitures-là, dans 3, 4, 5 ans, elles rouleront.
Mais pourquoi
plus.
Je comprends pas. Alors, on ne peut pas mettre ça sur une voiture neuve parce que sinon tu perds ta garantie. Non,
tu peux le mettre si tu le fais directement à la commande du constructeur. C'est le constructeur qui le fait.
Et Ramzy,
si tu le mets en dehors des circuits, du constructeur, ta garantie elle saute.
Mais Ramzy, là, donc, du coup, je vois, vous faites des économies. En plus, une Golf, c'est plutôt un bon moteur. Vous allez la garder jusqu'au bout. Vous allez la tirer jusqu'au bout. Vous envisagez de changer la Ramzy alors?
Non, je vais la garder jusqu'au bout. Et aujourd'hui, je viens de faire un contrôle technique il y a un mois, elle est passée sans problème.
C'est cher les contrôles techniques, non?
Non, 80 balles.
Non,
il 80 euros.
Bouge pas, le contrôle technique, c'est entre 70 et 80 euros. Donc aujourd'hui, c'est hyper rentable en ce qui me concerne, clairement.
Tant mieux,
bien joué.
Ramzy.
C'est une
bien
joué. C'est une solution.
Franchement, c'est un beau système D, je vous le dis. Pour les gens qui n'ont pas beaucoup de budget et qui ont des véhicules qui ont un certain nombre d'années, c'est un bon budget.
Et Ramzy, l'éthanol, vous le trouvez partout?
Ah oui.
Alors l'éthanol, je le trouve partout. Et en plus, il y a une application bioéthanol. Donc en fait, on met la région et ça nous trouve toutes les stations-service.
Parfait. Une application iPhone
et de fourniture.
Une application iPhone et Android, ça s'appelle.
Ah ok. Redites le nom de l'application.
Ça s'appelle Mestation E85.
C'est intéressant. Parfait.
Merci Ramzy.
Sarah
merci,
Salman, bonne
journée à vous.
Sarah Salman, il n'a pas de voiture. Hein,
à bientôt.
Justement, je me renseigne.
Attends, Sarah, t'as toujours pas de voiture?
Je crois qu'elle a le permis. Si elle a eu le permis.
Dis donc.
Alors, c'est une question sensible.
Beaucoup de choses dans ta vie en ce moment.
J'ai le permis. Je l'ai eu en septembre 2017. J'ai tous mes points vu que je ne conduis jamais, forcément. Et une fois, j'ai loué une Smart et ça a été tellement dangereux que j'ai préféré m'en arrêter là. Voilà.
T'as bien fait.
Elle cherche un chauffeur.
Mais le cliché, hein, la Smart, elle, tu vois ce que je veux dire, à Paris et qui cherche un footballeur. Le cliché.
La Smart, c'était une bonne idée parce que je me suis dit pour me garer, c'est pratique. En fait, je vais vous raconter un truc. En fait, je ne sais pas me garer. Donc, j'attends comme ça. Les autres klaxonnent. Je sors du véhicule. J'ai écouté monsieur. Soit vous me garez, voiturier, soit vous klaxonnez. Moi, j'ai tout mon temps. Donc, en général.
Pourtant, une Smart, c'est petit quand même.
J'y arrive pas, ça tape partout. Une fois, j'ai renversé un truc de Vélib, une rangée entière. C'est très dangereux. Donc, en général,
Tu trouves quelqu'un pour te garer?
Il y a toujours un monsieur gentil qui me gare, toujours. Il n'y a jamais une dame qui m'a aidé, je le souligne aussi.
Et donc, c'est étonnant.
Et je dis, monsieur, est-ce que vous pourriez être mon voiturier et tout? Et le gars derrière, parce que c'est soit ça, soit il reste derrière à claquer.
Et c'est le mec qui frime parce qu'il a garé la Smart.
Oui.
Et la Smart, c'était.
C'est un créneau tout seul. Je peux avoir ton numéro après, tu vois.
Et jamais je me suis pris un refus pour la voiture. Voilà, j'ai toujours dit, est-ce que vous pourriez me la garer? Mais je me souviens de ce truc où ils klaxonnent tous comme des malades. Moi, je mettais mes boules caisses, des vraies boules caisses en mousse pour pas entendre.
La blonde de Paris qui est habituée aux voituriers.
Non, en fait, ils klaxonnent tous, ça avait tendance à me stresser. Ils klaxonnent, ils gueulent, ça le pute, avance. Je mettais des petits boules qui est ce que j'avais pour pas être perturbée et j'essayais à plusieurs reprises. Puis au bout d'un moment, quand tu tapes des Vélib. Oui, ça prenait un peu de temps. Les gens, ouais, je suis pressé. Ils sortaient du véhicule et s'énervaient. Je disais, bah écoutez, on va faire très simple. Je vous donne, vous la garez. Moi, j'attends là. Puis je me posais comme ça sur le trottoir. Ils me la garaient. Voilà. Alors un jour, on m'a dit, mais peut-être qu'il y en a un qui va partir avec la Smart.
Ce qui est pas faux non plus.
Mais ils avaient des plus belles voitures que moi derrière.
Nathalie du Puy-de-Dôme. Bonjour Nathalie.
Les histoires de Sarah.
Alors Nathalie, aide-soignante, j'imagine que pour vous, en plus dans le Puy-de-Dôme, la voiture, c'est indispensable.
Ah bah, on n'a pas le choix. C'est clair. On n'a pas le choix.
Vous avez quoi comme voiture ?
Moi, j'ai une 208.
Je sais pas ce
que
c'est.
Une diesel. Une petite voiture diesel Peugeot. Voilà.
Et comment faites-vous alors face à l'augmentation du prix de l'essence alors ?
Je suis obligée d'aller travailler. Donc, oui. Je continue. Voilà, j'achète mon carburant. J'ai pas le choix. On n'a pas le choix. On est assez. Il y a des trains. Moi, j'habite dans une petite ville. Voilà, il y a une gare. Sauf que les horaires de train, en fait, pour aller jusqu'à mon emploi qui est à 20 km, ils ne correspondent pas avec mes horaires de
et
travail.
Et le bus, c'est pas possible ?
Il n'y a pas de bus, madame.
Et non, c'est le problème, la ruralité.
On n'a pas de bus chez nous. Non, on est dans des zones rurales. Et ouais. En fait, on n'a pas de bus. On est à 60 km de Clermont-Ferrand. Ouais. Moi, je travaille dans la Haute-Loire. À Brioude, à 20 km de chez moi, en fait.
Oui. Et il y a un bus, il y en a deux, juste.
Combien de kilomètres par jour, Nathalie?
Je fais 40 km par jour.
Ah oui, ça fait beaucoup.
C'est énorme. Hein.
C'est rien, ça. Après, par chez nous, c'est rien. Ouais. 20 km, c'est vraiment
mais voyez,
bien.
Parce que c'est intéressant, la réaction de Sarah, la parisienne, qui dit c'est énorme. Et vous dites, moi, 40 km chez nous, c'est rien. Je suis même sans doute en dessous de la moyenne. Et le problème, c'est que souvent, ceux qui nous gouvernent et qui décident pour nous sur l'essence, carburant sont des gens qui habitent dans les villes, sont des Parisiens, sont des gens qui parfois ont des chauffeurs quand il s'agit des ministres, ou qui peuvent effectivement prendre un métro, prendre un Vélib, même aller à pied au boulot. Et donc il y a un vrai décalage, je pense, entre ceux total. Qui les, entre les sachants hein, mais je parle aussi même des médias hein, parce que ben tous ouais, les médias sont à Paris, tous les médias sont à Paris, donc tous les journalistes se sont en métro, en Vélib, etc. Et finalement la majorité des Français qui ne vit pas cette vie, vit une vie où la voiture est essentielle. Si on n'a pas de voiture, on reste cloîtré chez soi.
De la même façon qu'il y a une fracture numérique, on peut parler de fracture de la mobilité. Dans les campagnes, même en semi-ruralité, t'as pas de transport en commun, t'as pas de possibilité, t'as moins de bornes électriques, t'as moins.
Et que tu sois jeune, vieux, t'as besoin de ta bagnole.
Bien sûr, et tu vas
être soigné,
tu vas travailler, très souvent à la ville, et donc à 30 km, tu fais 60 km.
J'ai juste une question, je suis très mal placée pour en parler, vu que je ne sais pas faire de vélo et je ne m'en cache pas. Pourquoi ne pas y aller en vélo ?
Non plus.
Alors, comment vous expliquer 20 km aller, 20 km retour en vélo, dans le Puy-de-Dôme, en hiver, en étant aide-soignante, en n'ayant pas du SLD, en ayant travaillé.
Bien sûr.
Il y a une mallette à porter et tout.
Non, il n'y a pas de mallette à porter. C'est juste que c'est pas. Franchement, c'est pas jouable.
Mais Nathalie, juste quelques petites côtes, des fois des congères.
Nathalie, vous avez un compagnon, vous êtes mariée, dites-moi.
J'ai un compagnon qui travaille en télétravail parce que, il a la chance de pouvoir travailler en télétravail.
Donc, déjà au niveau du budget, ça allège aussi, ça. Déjà,
c'est chacun son budget.
À une séparation de biens, ça, je vous félicite.
Oui, c'est chacun son budget essence. Parce que lui il fait des déplacements. C'est un ancien Parisien d'ailleurs.
D'accord.
Il est en province, il est venu en province il y a 6 mois. Il est venu. En fait, à Paris, vous comptez en temps. Et en province, on compte en kilomètres.
En kilomètres.
Et c'est vrai.
Bon raisonnement.
Ah, c'est intéressant.
C'est exactement ça.
Voilà.
Mais Nathalie, du coup, avec la flambée des. Vous êtes en appartement ou en maison ?
Non, je suis en maison. J'ai la chance,
avec quoi comme énergie ?
J'ai réussi à avoir un petit crédit. L'électricité.
Ah oui, l'électricité, les convecteurs ? Non.
Si. Enfin, les radiateurs.
On a poussé les gens à avoir des conducteurs électriques.
La voiture.
Comme les voitures électriques.
La voiture, les convecteurs, dans une région qui s'appelle le Puy-de-Dôme, il va falloir rogner sur certaines parties du budget, j'imagine.
Mais quel budget ?
Il n'y a plus de reste.
Non, mais attendez.
Moi, je suis une maman seule. J'ai deux enfants. Voilà. Mes enfants sont grands. Ma fille est à la faculté de médecine, d'ailleurs. Merci, docteur.
Bravo,
on en a besoin.
Voilà. Et en fait, je suis toute seule. Et avec pour ma fille. Et en fait,
le papa, il n'aide pas le papa ?
Non.
solliciter un versement de pension alimentaire, madame.
Ça va,
c'est jusqu'à la fin des études, hein, jusqu'à ce que l'enfant soit indépendant et pas jusqu'à la majorité.
Voilà. Mais
elle y croit pas.
Non.
Et bah, faites la procédure devant le JAF et je vous assure que vous y croirez, à moins qu'il soit insolvable.
Je crois que vous vous rendez pas compte quand on est seul, quand on est.
Non, mais justement, c'est pour ça que je vous dis, si vous allez devant le juge aux affaires familiales et que vous sollicitez une pension alimentaire.
Oui, mais le problème, c'est que notre auditrice, elle n'a pas 25 heures dans la journée, quoi.
C'est ça. Et le truc, en fait, si vous voulez, avec les salaires qu'on a, et je parle en tant qu'aide-soignante, mais je parle aussi de ceux qui sont à l'usine, enfin, le SMIG, voilà. Comment vous expliquer qu'à la fin du mois, moi, je suis à moins 1006 tous les mois.
Ah ouais.
Mais tous les mois, parce que c'est un gouffre. J'ai ma voiture, on me dit, j'ai entendu Mehdi tout à l'heure qui disait... passer à l'électrique, mais comment voulez-vous
Je suis contre ça.
Pas du tout.
Je suis pas un mouton, moi. Ça, je laisse au mouton. Ça sera le dernier qui roulera avec essence.
Allez-y, Nathalie.
Avec un budget, déjà pour s'acheter une voiture neuve, quand on voit le prix des occasions, on peut pas.
C'est vrai. Qui a pris 30% en deux ans le prix d'occasion.
C'est ça. Moi, j'essaye de trouver une voiture pour ma fille. C'est une aberration.
C'est vrai, les prix sont dingues.
J'ai une petite voiture, je la prends je l'ai en location, vous savez, avec longue option durée. D'achat,
ouais.
Parce que j'avais pas la possibilité, en fait, d'acheter une voiture, tout simplement. J'avais pas la possibilité, donc j'ai eu cette possibilité-là, mais je paye 170 euros par mois juste pour une petite 208 diesel de 75 chevaux, plus le crédit de la maison, plus l'électricité, 137 euros par mois.
Ça s'arrête du moins.
Ça s'arrête jamais.
Et ça s'arrête pas.
Vous avez été augmenté récemment ou pas?
J'ai eu 20 euros par mois.
Ah ouais, d'accord.
Alors moi, je me plains pas. Je suis dans le public. Je suis fonctionnaire. Je suis dans le public. Il y a des gens qui travaillent et j'ai des collègues aides-soignantes qui sont dans le privé, qui travaillent pour 1300 euros par mois. Comment vous voulez vivre avec 1300 euros par mois, avec le métier qu'on fait, avec la possibilité qu'on a? Alors ça, je sais que vous en parlez, c'est récurrent sur votre plateau, vous en parlez beaucoup et je vous en remercie parce que les gens se rendent pas compte. Les gens, pour eux, c'est du service. Sauf que pour nous, c'est pas que du service. Nous, c'est de l'aide. On est là pour quelque chose. Et je voulais remercier le docteur parce que je trouve qu'il nous soutient. Et vraiment, merci du fond du cœur parce que, voilà, on ne fait pas ce métier pour rien, en fait.
Mais on va continuer. On va continuer à rappeler régulièrement combien c'est un métier difficile, combien c'est un métier indispensable. C'est sans doute le métier le plus dur qui puisse être fait. Dans les secteurs de la santé, ce sont des gens, je le dis à chaque fois, qui mettent les mains là où vous ne mettriez pas les yeux, qui ne finissent jamais leur tour, parce que quand elles ont fini leur tour, elles doivent recommencer, c'est sans fin, qui sont sur les genoux et qui sont payés au SMIC, voire des fois moins que le SMIC. C'est juste une honte. C'est un pays merveilleux qui veut avoir le meilleur système de santé du monde sans payer les soignants.
C'est
Nathalie,
ça.
Permettez...
EHPAD, juste l'EHPAD, EHPAD, on oublie nos anciens. On les délaisse.
Ah, je confirme.
Tout le monde trouve. On parle de millions pour le Qatar, de trucs. Mais on vit des choses, si vous saviez, au jour le jour.
Ouais.
On essaye de faire notre mieux. On a une direction qui essaye de faire de son mieux aussi. Mmh. C'est un hôpital public. Mais on laisse les gens dans un. Moi, franchement, je suis limite de m'en aller. Et de laisser tomber, je raccroche la blouse, même si j'adore mon métier, j'aime faire ce que je fais, mais je suis en limite de tout laisser tomber parce que c'est... On peut pas, un hôpital public ne peut pas faire des bénéfices. C'est pas possible.
Nathalie,
la santé, on peut pas faire des bénéfices avec de la santé.
Je vous remercie de ce témoignage en toute franchise qui doit, qui nous interpelle,
merci beaucoup,
doit
Nathalie.
Alerter.
Merci à vous.
Permettez que je vous envoie un t-shirt DGG aussi.
Ah, je vous remercie, c'est
gentil. Un petit lot de consolation, mais pour vous remercier de votre fidélité. Nathalie, merci, c'est vous qui aurez
merci,
conclu notre discussion. On a posé la question, les prix de l'essence, est-ce que vous allez moins prendre votre voiture? C'est un non à 57%, 58%. Même voilà, pour ceux qui nous ont écoutés et ont voté pendant les 20 minutes.